Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre. Eva Rock pour le zapping du lendemain, spécial retour vers le passé. Et Bertrand Chameroy pour un écran de veille intrusif. Notre invité culture, ce sera l'humoriste et comédien et réalisateur Cairon pour son nouveau film Brutus contre César ou VS César, comme vous voulez, qu'il a écrit, réalisé et interprété. Et puis aussi, on va dire un mot de son spectacle. On n'éteindra pas la lumière. Hélène Manarino, de retour, va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, un album particulier de musique soul avec Angèle Châtelier et une série franco-danoise, ce sera avec Margot Barallon. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver ici studio.
Et voilà. Nous donc. Ouais.
Nous sommes tous trois négatifs et comme tous les jours, on commence par vous à cette heure-ci Bertrand. C'est l'heure de votre écran de veille. Vous êtes de retour en studio,
oui.
Mais si je suis bien informé, vous n'avez pas laissé votre mauvais esprit à la maison. Qu'avez-vous regardé hier ?
Alors avant toute chose, interro surprise.
Oula,
Eva,
oui.
Eva, qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ?
Lavoisier.
Vous dites ?
Lavoisier.
Oui.
Ah non, pas du tout, n'importe quoi, c'est W9. Quand ils ont un bon filon, ils l'exploitent au max. Vous connaissez peut-être Manon et Julien Tanti, deux candidats révélés par les Marseillais de W9. Ils sont en couple. Leur participation au programme a déjà donné lieu à plusieurs déclinaisons. Manon plus Julien, le mariage. Manon plus Julien égale bébé fraté, dans lequel on pouvait suivre la naissance de leur premier enfant, Thiago. Et voilà donc, depuis lundi, sur Sisplay, Manon plus Julien égale Angelina, consacrée à leur déménagement à Dubaï et à la naissance de leur deuxième enfant. Plus qu'une émission, c'est un massage pour les oreilles. Et bon réveil.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est quoi ces bruits ?
C'est de la joie, c'est du bonheur. Du bonheur,
là.
Oui.
C'est la petite Angelina ?
Non, non, même pas, c'est les parents. Les amis des parents. Alors, attention, ce n'est pas de la télé-réalité, c'est un documentaire, comme précisé sur le site. La télé-réalité, c'est quand on suit des candidats, des Marseillais dans leur intimité, alors que là, on suit des candidats, des Marseillais dans leur intimité. Ça n'a rien à voir, c'est beau comme du Magritte. Ah, oh ! Oh le con, je viens de me faire un claquage. Ouais, en même temps, si t'es Magritte dans un papier sur la télé-réalité sans s'échauffer, ça peut être dangereux. Manon plus Julien égale Angelina, une aventure humaine extraordinaire qui permet notamment d'en apprendre plus sur les dessous de la gestation.
Sachant que je me trouve beaucoup plus moche que ma première grossesse, j'ai des boutons, j'ai des petites pellicules, j'ai des cernes. Est-ce que du coup c'est fort probable que ce soit une fille parce qu'elle me prend ma beauté ?
Eh oui.
Non.
Peu de gens peu de gens le savent, mais en venant au monde, les petites filles volent la beauté de leur maman. Alors, comme dans toute bonne télé-réalité, il y a des rebondissements. À 48 heures de la naissance d'Angelina, crise de stress de la maman qui s'inquiète du fait que rien n'est prêt. Il reste les biberons à stériliser, la valise de naissance à préparer. Mais malgré la panique, elle garde le sens des priorités.
Ni une ni deux, mon cerveau, il se met en place. Les choses les plus importantes, ça va être déjà d'aller choisir notre voiture.
Et oui, l'urgence, c'est d'acheter une belle voiture.
Car, ni une ni deux.
Car à Dubaï, les taxis n'existent pas. Ça non plus, on ne le savait pas. Comme quoi, on apprend des choses. Et on suit donc les parents déambulés à 48 heures de la naissance dans les allées du concessionnaire de luxe en compagnie du petit premier qui passe la majorité du programme à fixer les caméras. L'air de se demander ce que font tous ces inconnus de cadreurs qui le suivent partout. C'est assez fascinant. Mais pas autant que cette réflexion du couple alors qu'ils se rendent chez le gynécologue pour l'échographie des 3 mois.
Être une personne publique, c'est beaucoup plus compliqué que d'être une personne lambda. On ne peut même pas aller faire une échographie sans se dire qu'on peut être pris en photo et qu'une personne dévoile avant nous la grossesse.
Putain, tu vois le problème là, c'est qu'il y a plein de gens autour et qui vont nous voir rentrer chez le docteur.
Disent-ils alors qu'ils se rendent à l'écho suivi par des caméras de W9.
C'est
sûr que pour ne pas attirer l'attention, c'est une belle technique. Des caméras qui ont évidemment capturé le moment clé du programme. Là, c'est Angelina. Oui. La naissance d'Angelina filmée, ce qui fait d'elle la plus jeune candidate de télé-réalité. Et aujourd'hui, elle a 3 semaines. Et à seulement 3 semaines, elle possède déjà un compte Instagram suivi par 323 000 personnes.
Non.
Ouais. Alors, c'est beaucoup, mais il lui reste encore un peu de boulot avant d'atteindre le 1 400 000 abonnés de son frère Thiago. Après, lui, il a 2 ans, donc ça fait plus longtemps qu'il est dans les affaires. Hein. De la télé-réalité, donc, et comme dans toutes les émissions de télé-réalité...
C'est que du bonheur, frère.
C'est demain matin.
C'est que du bonheur.
Non, du business. C'est que du business. Vivement la télé-réalité in utero.
Bravo
non,
Bertrand.
Non, ouais. non,
vous n'êtes pas d'accord.
Non, non.
Vous ne cautionnez pas ça, Eva. Eva, On se projette comme la petite Angelina avec vous dans l'avenir. Quels seront les programmes du soir et le thème de votre zapping du lendemain?
On va redevenir un peu plus intello. Le passé, Philippe, je vous propose un bond dans le passé grâce à un documentaire, un magazine et une série. Le documentaire, c'est sur RMC Découverte et le sujet du soir, c'est les canaux de Paris. Alors, le canal Saint-Martin, le canal Saint-Denis, le canal de l'Ourcq, des sites pour des balades touristiques, mais aussi des bras d'eau indispensables au transport du fret. Mais vous savez que ces bras de mer ne sont pas nés naturellement. Des hommes ont construit ces ouvrages au cours du 19e siècle. Des chantiers pharaoniques qui ont nécessité évidemment de la main-d'œuvre.
Le chantier est tellement long qu'on fait même appel à une main-d'œuvre bien particulière.
L'essentiel de la main-d'œuvre, ça va être les prisonniers de guerre des troupes napoléoniennes et puis pas mal de condamnés aux travaux forcés qui vont être employés sur les chantiers, mis à disposition des entreprises adjudicataires, chargées à elles de les nourrir et de les loger. Donc beaucoup d'hommes, ça va relativement vite en fait.
Alors ce documentaire est étonnant parce qu'il traite à la fois de cette histoire, mais il revient aussi sur les transformations technologiques des écluses, par exemple, les évolutions du transport fluvial, je vais y arriver,
fluvial.
Avec le masque c'est plus compliqué, vous serez incollable.
Et adjudicataire, il fallait la sortir.
Mais oui, il est formidable l'historien qui intervient d'ailleurs dans ce documentaire.
Votre deuxième choix, Eva.
Alors les invités de Carolina De Salvo, qui présente Faut pas rêver sur France 3, sont tout aussi incollables et nous offrent aussi un voyage dans le passé, alors un très lointain passé. Parce qu'au cours de sa balade dans le Finistère, Carolina rencontre notamment Malo. Et Malo, son métier, écoutez bien, c'est paléométallurgiste. L'homme s'intéresse à la paléontologie et au métal, à l'étain plus exactement, dont la découverte a permis à l'homme de passer à l'âge de bronze. Et le voilà donc, Malo, pelle à la main, en train de chercher le précieux métal dans la terre.
Mais comment ils faisaient s'ils n'avaient pas de pelle?
Eh bien justement, c'est l'une des grandes questions avec des os. Les omoplates, on sait qu'on pouvait faire des pelles rudimentaires.
Et donc, il faut. Une omoplate.
Ouais, de bœuf.
Faut le faire pour creuser quand même un mètre, deux mètres avec une omoplate.
Ouais, carrément, ouais. C'est long, mais ils avaient peut-être plus le temps.
Numéro très réussi du magazine de France 3 avec des rencontres drôles et étonnantes. Gégé, conducteur d'alambic, Hugo qui cuisine des algues ou encore Erwan qui embrasse les arbres. Alors je sais, dit comme ça, c'est un peu étrange, mais ça mérite vraiment le détour.
Oui, on salue Gégé, le conducteur d'alambic.
Après avoir fait un bond de 2000 ans dans le passé, remontons encore plus loin, il y a 45 000 ans, dans une grotte, une petite tribu qui tente de survivre. Parmi les hommes, il y a Moa. Un jeune homme de la préhistoire, vegan, souffrant de l'absence du père, qui découvre l'amour, qui découvre aussi l'eau, les premières armes. Et puis, il découvre aussi l'écho quand il vient de se réveiller et qu'il bâille. Moa, nouvelle série française à voir sur OCS dès demain. Une série comme vous n'en avez jamais vu. Pas de dialogue, que des onomatopées, pas de musique non plus. Un projet totalement fou qui repose sur la folie des créateurs, les décors des sites préhistoriques en Dordogne et la performance des comédiens, à commencer par Tigrane Mkhitaryan alias Moa. Il est exceptionnel comme le reste du casting, avec entre autres Bruno Sanchez, le comparse d'Alex Lutz qui a lâché son costume de Liliane pour une peau de bête. Moa, c'est la série folle de l'automne. Donc je récapitule, voyage dans le 19e siècle, c'est grâce aux canaux de Paris sur RMC Découverte à 21h05. Voyage à l'âge de bronze avec Faut pas rêver sur France 3 à 21h05. Et voyage il y a 45 000 ans grâce à Moa dès demain sur OCS.
Merci beaucoup Eva Roch, merci Bertrand Chameroy. À demain, dans un instant, Kayron, notre invité, sera avec nous. Mais d'abord musique, Charlotte Cardin.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Kayron.
Salut, bonjour, pardon.
Ouais, comme vous avez le masque, on ne voit pas si vous avez toujours la même petite barbiche que dans votre film.
Bien sûr que non, c'est une barbiche qui a été rémunérée.
Ouais, vous êtes humoriste, auteur de One Man Show, également cinéaste. Deux films qui ont bien marché, Nous Trois ou Rien et Mauvaises Herbes. Et donc le troisième, qui sort en ce moment sur la plateforme Amazon Prime. Film qui aurait dû sortir en salle, mais bloqué par le Covid. Ça s'appelle Brutus vs César. Comment vous prononcez VS?
Moi, je dis contre.
Contre, voilà. Brutus contre César.
Versus.
C'est un péplum qui se passe à Rome, dans un petit village gaulois. Je vais donner le casting parce que vous allez reconnaître les voix. Brutus, c'est vous. César, c'est Ramzi Bedia. Et il y a deux sénateurs qui veulent monter un complot pour tuer César. Gérard Darmon et Thierry Lhermitte, bande-annonce.
Brutus, c'est qui César pour toi?
C'est mon père.
Oh, ça suffit avec tout ça maintenant. Hein, c'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonia?
Vous voulez tuer César?
Il y a un endroit où il est vulnérable.
La carotide?
Non, c'est au Sénat qu'il est vulnérable.
Plus qu'à la carotide?
C'est toi, Brutus, qui aura l'honneur de frapper en premier.
Je pourrais crier un truc, genre...
Liberté!
Liberté! C'est pas possible, ça. Tu le sors d'où, lui?
Votre personnage de Brutus, j'adore cet extrait, c'est d'abord un boulet.
Ouais, c'est complètement un boulet et définitivement un boulet. C'est quelqu'un qui n'a pas les épaules pour tuer quelqu'un. Il est pas là-dedans. C'est un marginal qui a été renié par son père, qui habite en périphérie de Rome, qui n'a pas le droit de mettre un pied dans Rome et qui veut juste trouver sa place, en fait.
Ouais, on va entendre un extrait. Il n'a pas tout à fait compris ce que voulait dire le mot comploter.
Tu le sors d'où, lui ? C'est Brutus, le fils de César. Mais t'as pété les plombs, dis-je.
J'ai dit que Brutus était le fils de César, pas que César était le père de Brutus. C'est qui César pour toi ?
Bah, c'est mon père.
Mais quand César t'appelle, il dit mon fils ?
Non, il m'appelle l'autre. Il est où l'autre ? Qu'est-ce qu'il veut l'autre ?
C'est pour ça que tu penses à sa mort.
Hein ? Pas du tout.
Qu'est-ce que tu fais là alors ?
Attendez, est-ce que vous voulez tuer César ?
Et c'est quoi d'autre, une soirée complot ?
Déjà, tu m'avais dit compote à la base.
Mais non, je ne veux plus de compote, je ne veux pas dire compote.
Je me rappelle très bien, j'ai une très bonne
idée. Non, j'ai une soirée où on complote, je n'ai pas dit quoi, une soirée compote.
Bah oui, mais complote. C'est particule bas aussi, on ne peut pas...
En fait, de toute façon, c'est débile, qui fait des soirées compote ?
Pourquoi ce serait débile ? Il y a des soirées raclette, il y a des soirées crêpes, il pourrait y avoir des soirées compote.
Évidemment, c'est anachronique aussi. Pourquoi un film sur Brutus ?
J'avais envie d'incarner un traître. C'était vraiment une idée que j'avais depuis longtemps. Je pense que ce sont des personnages vraiment jouissifs, les traîtres comiques.
Ouais.
Et j'étais parti sur Judas à la base. Malheureusement, avec le contexte actuel, les gens sont de plus en plus frileux.
Ah oui, Judas contre Jésus, on voit l'affiche, oulala.
Donc j'ai mis ça très vite de côté. Et puis ensuite, je pensais faire Jafar. J'ai une fascination pour Jafar. Mais entre Aladdin, Aladdin, Aladdin de Disney qui est sorti en live action, ça faisait un peu une overdose de Jafar. Et puis finalement, je me suis rappelé de Brutus. Je me suis rappelé qu'il n'avait pas été si traité que ça au cinéma. Je trouve que c'est intéressant de créer une saga avec lui.
Alors, je précise que ce n'est pas du tout un film historique.
ouais,
par exemple, les Gaulois retrouvent des lois dans des vieux grimoires. Or, les Gaulois n'avaient pas l'écriture.
C'est déjà pointu, ça.
Bah,
il y a pire que ça.
Ouais, vous avez retrouvé Vercingétorix, qui est en fait en liberté dans Rome. Et ce n'est pas un guerrier blond. Et comme vous le dites, il y a toutes les ethnies partout. Pourquoi vous vouliez ça ?
En fait, sur ce film-là, j'avais que des acteurs, j'avais des noms d'acteurs,
ouais.
Même pas acteurs ou actrices, à part peut-être quelques-uns, mais par exemple, il y a des rôles de femmes qui ont été donnés à des hommes et des rôles d'hommes qui ont été donnés à des femmes. Je n'ai pas fait du tout attention à l'ethnie. Je ne voulais pas un acteur maghrébin pour jouer César. J'ai proposé à Ramzy. Si Ramzy avait dit non, peut-être que le prochain aurait été caucasien ou noir. Ça doit être mon père. Mais, mais pour les autres acteurs, par exemple, c'est valable. Thierry Lhermitte et Gérard Darmon, s'ils avaient dit non, peut-être que j'aurais proposé à d'autres gens qui ne sont pas caucasiens.
D'accord.
Il n'y avait pas de volonté de ne pas prendre des blancs ou de prendre des blancs, mais il y avait une volonté en tout cas de mélanger, de montrer une diversité et de faire fi du genre et de l'ethnie.
J'avoue mon ignorance. D'un mot, vous êtes de quelle origine ?
Iranienne.
Voilà. Avec nous, Kayron, vous restez avec nous. On a plein de questions à vous poser et surtout, on a hâte d'entendre votre portrait inattendu par Hélène Manarino. À tout
avec
de suite.
Avec plaisir.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Kayron et d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour
Je
à
ne
tous.
Sais pas, Kayron, bonjour. Si vous l'avez bonjour déjà vu, Kayron. Mais elle vous a déjà vu 4 fois sur scène. Oui. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Kayron.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors non, je ne prononcerai pas votre vrai prénom, puisque vous n'aimez pas ça. Mais je peux dire Nouchi, par exemple, surnom que vous donne votre maman, ou alors Bouboule, surnom de l'une de vos tantes quand vous aviez 6-7 ans. Parce que oui, wow, vous aimiez beaucoup manger.
C'est vrai, vous êtes à un bon niveau d'information. Okay.
Ouais.
Kayron, ce que vous avez toujours préféré, c'est de surprendre le public. Et je vais essayer de vous surprendre ce matin. Tiens, gardons l'univers culinaire, si vous le voulez bien, pour commencer, puisque c'est ça qui vous anime en ce moment. Je pourrais vous appeler Monsieur Produits Frais. Vous ne cessez jamais de cuisiner depuis le confinement. Vous prenez des photos plus ou moins réussies de vos plats. Vous êtes le seul fan du fruit, le mangoustan.
Mais c'est incroyable.
C'est ce que vous mangez le plus.
C'est le meilleur fruit du monde. Mais je ne veux pas vous interrompre, pardon.
Ah mais si, allez-y,
c'est
vrai. Vous pouvez réagir.
C'est un fruit qui est sous-coté, que plein de gens ne connaissent pas. Et pour moi, c'est le meilleur fruit de très très loin.
C'est un fruit thaïlandais ?
C'est un fruit thaïlandais, indonésien, exotique. Et je demande maintenant aux anniversaires, je demande qu'on m'amène que des mangoustans. Ça me fait plus kiffer que des cadeaux.
Alors, pas de fromage. Même à l'école, petit, vous l'aviez craché limite au visage de votre maîtresse. Elle avait pourtant parié sur le fait qu'elle allait réussir à vous faire manger du fromage, mais non. Et surtout, vous êtes le plus gros acheteur de pâtes. Il y a 2 jours, vous avez encore acheté une quantité de pâtes.
C'est pas possible, comment tu as les infos d'il y a 2 jours ?
Le vendeur aurait pu vous confondre avec un restaurateur. Et pourtant, Kéron, au restaurant, vous n'êtes pas facile. Vous posez toutes les questions du monde au serveur avant de choisir votre plat. Quelle race de viande? Le sel, c'est avant ou après? C'est une bonne question. Vous réussissez même à reconnaître quand votre restaurant préféré change de marque de sa glace saveur coco.
Exactement. Il y a un restaurant qui a essayé de me faire ça une fois. Changer la glace du dessert et faire comme
et
si
vous avez...
Je suis pas un touriste en fait, je connais, donc à un moment donné, pardon.
La nourriture finalement vous apaise puisque petit, pour vous calmer, vous aimiez ouvrir le frigo. Mais finalement, Kéron, vous êtes donc très très exigeant dans la décoration par exemple de votre nouvel appartement. Vous vérifiez tout, est-ce que les portes ont été bien travaillées, vous cherchez des verres en ce moment de la couleur magnolia. Vous avez une passion pour une table basse en résine époxy aussi.
Les gens, je sais pas si on voit l'étonnement. Mais là, je suis au max.
On a l'image là, sur europe1.fr.
Ouais, là, je suis au max de l'étonnement. J'ai jamais fait cette pause dans ma vie.
Ouais. Je fais la même. Ça doit être carré, comme vous le souhaitez, avec votre confort que vous trouvez dans votre collection de chaussons d'hôtel. Et oui,
oh non.
Et oui, vous faites ça, Kéron. Exigence avec vous-même dans votre travail, mais aussi l'impatience. L'impatience de savoir, connaître, apprendre. Et en ce moment, il y a votre Ligue des Champions. Le foot en salle. Le Five. Vous gérez le groupe WhatsApp.
Mais
il
c'est
y a
pas possible.
60 joueurs.
Ça veut rien dire. Mais moi, je sais pas combien il y a de joueurs.
Comment? Il y en a 60.
Mais elle le sait.
Vous proposez. C'est dur de rire avec le masque. Ouais. Vous proposez les créneaux, vous gérez les équipes. Il ne faut rien.
C'est fou.
Il ne faut rien vous proposer le lundi, mercredi et vendredi. Vous regardez même les vidéos après pour analyser. Et pourtant, quand vous avez fait du foot petit, vous avez dû arrêter au bout d'un jour, car pour vous, on courait trop. Voilà. Alors, impatient depuis l'enfance, tout savoir de la mythologie grecque. Adolescent, vous planchiez sur les livres. C'était votre priorité. Il y avait aussi les échecs en championnat et puis les jeux que vous vouliez créer sans cesse à l'âge de 4-5 ans. Vous ne vous arrêtiez jamais à tel point que vous endormiez sous votre lit avec juste une jambe qui sortait. Mais heureusement qu'il y avait votre panthère noire qui vous servait d'oreiller.
Et oui. C'était ma peluche.
Et que vous avez d'ailleurs gardé très longtemps. Impatient de rentrer chez vous après la maternelle, à tel point que quand votre maman était en retard, vous la faisiez attendre en lui affirmant « Je t'attends depuis tout à l'heure, je finis mon dessin, donc tu attends. » Malin. Wow. Et oui, l'impatience.
C'est qui la balance, ça y est.
L'impatience de faire rire en école primaire. Sur votre bulletin, il était écrit régulièrement « drôle mais bavard ». Aller au tableau, regarder ses camarades et bouger ses fesses devant tout le monde. Et oui, vous avez fait ça. Votre maman était souvent convoquée. Vous vous souvenez?
Il est mort de rire, j'adore.
C'est une preuve qu'elle me rappelle des trucs que j'avais oubliés depuis des années. Pardon, continue, c'est fantastique.
Surtout, Kéron, vous étiez un enfant qui avait l'impatience du vivre ensemble, être élu délégué de classe pour mettre à l'honneur ses valeurs. Pour être élu, d'ailleurs, vous avez distribué des canettes et des fruits depuis votre balcon. Eh oui, bien sûr. Et vous vouliez deux objectifs pour être élu, surveiller la propreté des sanitaires et mettre en place des événements pour l'école. Alors, une enfance entourée d'adultes, notamment de votre tante, Jeannette. Quand vous êtes arrivé en France, vous étiez persuadé que l'école où vous étiez n'était pas bien, elle n'était pas de qualité pour vous parce que les autres ne parlaient pas avec vous. Mais il y avait cette barrière de la langue, mais votre maîtresse a su vous rassurer. Et c'est là que vous avez compris, comme vous dites souvent, la diversité est une richesse. Alors, Kéron, parfois, il faut vous apaiser l'esprit et vous calmer.
Oh non!
Et pour cela, vous aimez le snorkeling. Ah, okay. Et oui, nager, les fonds marins, vos vacances, c'est uniquement ça. Toujours le sourire de bonne humeur. On aimait vous appeler la personne solaire. Mais Kéron, pour terminer, parlons de votre plus belle mission. Rendre fiers vos parents qui travaillent avec vous aujourd'hui. Un trio intouchable, jamais loin. Gênés quand ils viennent vous voir sur scène. Perturbés quand ils partent en vacances sans vous. Vous avez trouvé, Kéron, le plus beau mélange. L'exigence, l'impatience, la famille. La recette du succès à consommer sans modération.
Merci beaucoup. Bravo, Kéron applaudit. Merci beaucoup, Hélène. Dans un instant, notre premier indispensable, Angèle Châtelier, on parlait de musique. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Kéron, l'humoriste qui signe son troisième film, Brutus contre César, qui n'est pas sorti en salle, mais qui est disponible dès maintenant sur la plateforme, Amazon Prime. Dans le film, le chef des armées, je l'ai dit, c'est une uchronie, une utopie. Ça se passe du temps de César, c'est un péplum parodie, évidemment. Le chef des armées de César, c'est pas un homme, c'est même pas un blanc, c'est une femme, et c'est une femme noire. Eye Haidara, pourquoi ce choix d'une femme noire pour diriger les armées de l'Empire?
En fait, à la base, c'était un rôle d'homme.
Ouais.
Et puis, quand j'ai commencé à avoir le casting, on met les photos des gens sur le mur les uns côté des autres. Et puis, je trouvais que ça manquait de femmes.
Ouais.
Et puis, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir encore un ou deux rôles de femmes. Et j'ai regardé. Et puis, j'ai vu un film avec Ayé.
Ouais.
Et je l'ai adoré dedans. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien bosser avec elle. Bah, tiens, ce rôle d'homme, on va en faire une femme. Je vous propose à Ayé.
Ouais.
Et le fait qu'elle soit noire, bah, c'est un hasard. Mais tant mieux, du coup, parce que ça raconte aussi un truc. Mais comme j'ai dit, vraiment, dans ce film, il y a des femmes au Sénat, il y a des femmes qui sont légionnaires. Il y a toutes les ethnies, donc j'ai enlevé complètement la notion d'ethnie et de genre, en fait. Mmh. Parce que voilà, je trouvais ça moderne.
Transition toute trouvée avec vous, Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour Philippe.
On va parler de musique et plus spécialement de soul music, mais chantée par des femmes.
Je vous présente Soul District Ladies First, une compilation de titres de chanteuses de soul qui ont fait les grandes heures du genre dans les années 70, Carla Thomas, Vicky Anderson, Marlena Shaw ou Lynn Collins. Sur la pochette de cette compilation, on voit des femmes noires brandir des pancartes. Nous demandons des droits égaux maintenant. Nous marchons pour intégrer les écoles maintenant. C'est le Black Féminisme, mouvement féministe né dans les années 60-70, qui associe aussi bien le sexisme au racisme. Car l'ambition de cette compilation, eh bien, c'est de mettre en avant des femmes noires qui chantent leur émancipation et leur liberté.
Caron bouge la tête, des femmes nettement moins mises en avant que les hommes, j'imagine.
Oui, à l'époque, c'était plutôt James Brown et ses divas d'ailleurs. Hein. Lynn Collins, par exemple, a chanté avec lui, mais il y a certains tubes pour lesquels elle n'a jamais été créditée. Gloria Jones a signé sous pseudonyme de nombreux titres pour les plus grands de l'époque, comme les Jackson 5. Les femmes artistes, on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas. Et puis d'ailleurs, cette compilation met en avant les chanteuses de soul qui crient leur indépendance, mais en coulisses, ce n'était que des hommes. C'est ce que m'a raconté Frédéric Adrien, qui est journaliste au magazine Soulbag.
Beaucoup d'entre elles, même si elles affichent leur autonomie, c'est le sujet de la compile, c'est des hommes qui sont derrière, dans les orchestres quasi intégralement, dans la production quasi intégralement, sauf peut-être Valérie Simpson qui, elle, a eu une carrière de productrice, d'autrice en autonomie. Première femme, on va dire visible, dans la lignée d'Angela Davis, dans la lignée des féministes américaines. Alors il y a des messages qui sont vraiment politiques, y compris sur la compile. Je pense par exemple à Marlena Shaw quand elle chante Woman of the Ghetto. C'est clairement un message politique, social, avec de l'importance, avec du poids. How do you make
Je suis fière, je suis libre, noire c'est moi, mais je suis une femme du ghetto. Soul District Ladies First est d'ores et déjà disponible.
Merci beaucoup Angèle, vous savez quoi, je vais le prendre cet album, je n'en connaissais aucune et j'ai adoré tout ce que vous avez passé. Carole, j'imagine c'était pareil, à voir comment vous bougiez,
ouais, moi j'adore.
Ça vous a pas déplu?
Non mais j'aime beaucoup ces voix-là et puis toutes ces époques Motown, etc. Je suis fan.
Exactement.
De...
Ouais, mais Motown on connaissait, hein, Nicolas,
oui,
j'ignorais. Vous écoutez quoi en ce moment?
En ce moment j'écoute le dernier album de Damso,
ah oui.
Voilà, qui s'appelle Calf.
Voilà. Ouais. Ça c'est Macarena.
Ouais, ça c'est dans l'album précédent.
Ouais.
J'aime beaucoup Damso, je le trouve incroyable.
Pourquoi?
Parce qu'il a un style à lui, il a une voix à lui, le vocabulaire est très très riche. il a des thématiques qui me touchent. Et je trouve que dans sa façon de poser, on ne peut jamais anticiper la mélodie qui va arriver derrière.
Angèle, justement, anticipons la mélodie qui va arriver derrière. On écoute quoi ensuite?
Eh bien, on écoute des Ladies, Ladies First. On écoute maintenant Syrita. Voici Come and Get This Stuff sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Brutus contre César, c'est le troisième et plus récent film de Cairon qui vient de sortir, non pas en salle, mais sur la plateforme Amazon Prime. Enchaînement tout trouvé avec vous, Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous parlez ici habituellement de séries et aujourd'hui vous nous conseillez Kidnapping, série franco-danoise diffusée sur Arte.
Et qui va parler, à la surprise générale, d'une histoire de kidnapping.
Ah, super.
Donc tout commence à Copenhague lorsqu'une petite fille est enlevée.
Il y avait 8 enfants sur l'aire de jeu quand le personnel a remarqué qu'il en manquait une. Mina Nugord, âgée de 11 mois. Tous les services ont été avertis. Le personnel a eu un moment d'inattention.
Il y a des témoins ?
Un gamin d'un an et demi qui parle à peine.
Alors le policier sur l'affaire s'appelle Rolf Larsen. Il vient tout juste d'avoir un enfant lui-même. Et en fait, alors qu'il mène l'enquête, sa propre fille disparaît. Lui est persuadé que ce n'est pas un accident, que les deux histoires sont liées. Personne ne le croit et figurez-vous qu'il n'arrive à résoudre aucun des deux mystères.
Donc il reste sans rien, mais ça ne peut pas se finir comme ça, Margot.
Ah ben non, évidemment, ça c'est que le premier épisode. On retrouve ensuite Rolf Larsen 5 ans plus tard. Par hasard, il découvre une erreur dans le fichier national ADN danois. L'enquête sur l'enlèvement de la petite Mina est donc relancée et elle dépasse même les frontières.
Vous n'avez peut-être pas accordé d'importance au ravisseur de Mina, mais il se trouve que le profil que Rolf Larsen nous a soumis hier correspond à celui d'un homme recherché pour avoir tué une jeune femme en France la semaine dernière. Et maintenant, la police française réclame notre aide. Pour ne rien vous cacher, cette affaire n'arrange pas notre image.
Et Rolf Larsen va donc devoir faire équipe avec une commissaire française, Claire Bobin, qui n'est autre que la très chic Charlotte Rampling. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver embarqué dans une histoire complexe de trafic d'enfants entre la France, la Pologne et le Danemark.
Je ne voudrais pas dire, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un scénario hyper original.
Eh bien, c'est vrai. Sauf que, justement, la série, non seulement, évidemment, elle est très bien faite, mais elle arrive à aller au-delà de ce scénario. D'ailleurs, il ne faut pas se fier au titre en français. Hein. Kidnapping, c'est le titre français. Mais en version originale, ça s'appelle ADN. Et c'est beaucoup plus juste. Parce qu'en fait, au fil de l'histoire, la série va aborder la question de la filiation, de l'adoption, du désir d'enfant. Écoutez par exemple ce qui se passe lorsqu'en France, Rolf Larsen et Claire Bobin vont perquisitionner une clinique spécialisée dans la fertilité.
Ce n'est pas n'importe quelle clinique. Elle appartient à Nicolas de Beaulieu et son épouse Madeleine est présidente du conseil.
C'est qui déjà ?
Une écrivaine et polémiste. Une étoile montante de la politique française. Elle est connue pour ses valeurs catholiques et son opposition farouche au mariage homosexuel. Son cheval de bataille, c'est la famille. Elle milite pour le droit à l'enfant. C'est un sujet épineux ici.
Alors vous entendez donc la voix de Charlotte Rampling, évidemment. Ouais. Et puis, le fait que la série touche en fait du doigt des thématiques de société qui sont très actuelles. Et ça, ça va donner l'occasion à la série de pencher plus du côté du mélodrame que de l'enquête. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on a rarement l'occasion d'être vraiment profondément ému en regardant une série policière. Et bien là, je l'ai été. Et c'est sûrement en ça que Kidnapping, finalement, se démarque le plus.
Vous avez dit c'est sur Arte, on pourra la voir quand cette série?
Et bien tout de suite et gratuitement sur le site. Et puis les premiers épisodes seront diffusés demain soir à la télévision.
Merci beaucoup Margot. Je précise que pour tout savoir sur les séries, on vous retrouve comme chaque semaine dans le podcast Sériland d'Europe 1 Studio. Kairon, je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de personnages. Non, je ne me suis pas laissé dire, j'ai vu le film. Il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y a en plus Pierre Richard, Bérangère Krief, Artus, Jérémy Ferrari, j'en oublie. Et je me suis laissé dire qu'il y avait tous ces personnages qu'à la base, Brutus contre César voulait en faire une série.
Moi, j'aimerais en faire une série. À la base, c'était une série que je voulais faire au cinéma.
Ouais.
Maintenant qu'on est chez Amazon, si ils donnent suite, bah, ce sera une série sur Amazon. Voilà. Mais j'adorerais ce format-là. Ouais.
Ils vous ont dit quoi ?
J'ai pas le droit d'en parler encore.
Bon, mais, donc ça veut dire qu'ils vous ont dit des choses.
Mais on...
Donc ça sera peut-être une série sur Amazon.
J'adorerais parce que moi, j'ai pas le droit.
Je sais que vous êtes fan de séries. Si vous aviez une série à défendre ?
Il y en a une que je trouve sous-côté, c'est La petite maison dans la prairie.
Non.
Je la trouve incroyable cette série pour 3 raisons. Je sais que les gens rient quand je dis ça.
Mais il se passe rien, La petite maison dans la prairie, il y a un gars qui coupe du bois avec des chemises à carreaux et pendant que la maman fait des confitures.
Jamais de la vie. La petite maison dans la prairie, déjà, c'est la fascination que j'ai pour un homme qui s'appelle Michael Landon, qui joue donc Charles Ingalls, mais qui également est auteur, réalisateur, producteur de la série.
Ouais.
Ce mec est brillant, il est d'une bienveillance folle.
Ah bah ça oui, c'est bienveillant.
Mais il se passe beaucoup de drames dans cette série. C'est une série ils ont rendu une fillette aveugle à 12-13 ans. On n'était pas prêts. Maringal, elle devient aveugle. Son fils, qui recueille qui est un orphelin, finit camé à la morphine. Il fume dans une grange avec son pote et il y a une femme qui meurt qui était enceinte. Il y a des drames, ça parle d'inceste, de viol, de racisme. Je trouve ça brillant.
Ouais.
Et c'est intemporel. Comme ils sont tous habillés à l'ancienne, plus qu'à l'ancienne,
ouais.
C'est vraiment intemporel et ça devrait être immortel. Et moi je trouve que, franchement, pour rendre hommage à cette série dans Mauvaise Herbe, je me suis tapé tous les épisodes. Une fois parce que je devais choisir des moments qui colleraient avec mon scénario.
Ouais.
Je me suis tous les épisodes. Je vous jure, je pleurais toutes les 15 minutes. Ouais. Je trouve ça brillantissime.
On se demandait ce que vous preniez. En fait, non, vous avez juste regardé la petite maison dans la prairie.
C'est brillant, c'est touchant, c'est intelligent. C'est, moi, je suis fan.
Blague à part, c'est immortel et ça continue et ça passe toujours. Vous restez avec nous, Kairon. On a encore des questions à vous poser. Merci, Margot. À très vite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie de Kairon, cinéaste, mais aussi humoriste, on va en parler. Brutus contre César, c'est disponible sur Amazon Prime. C'est vous qui avez écrit tous les dialogues ?
Oui.
Et on sent que vous aimez les bons mots, on le sent dans cette scène. Là, vous êtes, vous incarnez Brutus. Brutus est enfermé dans un cachot et le sénateur, joué par Gérard Darmon, vient le voir.
Brutus, il faut que tu quittes Rome le plus vite possible.
Mais moi, j'ai pas envie de quitter Rome.
Tu sais ce qu'il a prévu pour toi, ton taré de père ? Hein ? Il veut te sacrifier demain, alors tu choisis. Ou une vie ailleurs, ou une mort ici. Oh, c'est bon, ça.
Waouh. Ça... Hein? C'est magnifique.
Ah.
Waouh. C'est profond, c'est puissant.
Ça m'est venu, mais alors, comme ça.
Tu l'avais déjà sorti.
Du tout.
Vous aimez les bonnes vannes et les bonnes formules.
Moi, ça me fait rire, ouais.
Non, mais c'est une vanne de cinéaste dans un film.
Moi j'adore ce que j'appelle le comique de chipotage.
Allez-y.
C'est du, je sais pas, c'est par exemple, c'est ça en fait. C'est, il faut que tu fuis, tu vas te faire tuer. Waouh, phrase incroyable. C'est vrai que c'est beau ce que j'ai dit. Comment t'as fait, ça me fait rire quand on chipote une digression qui ouvre une autre porte. Ça me fait beaucoup rire.
Le comique de chipotage, il y en a qui suivent pas ça du tout. Vous lisez la critique ou pas?
Oui, je me renseigne sur ce que les gens pensent, ouais.
Alors moi j'en ai une. Normalement je lis jamais les critiques, mais là quand même, j'ai trouvé quelqu'un qui a vraiment pas aimé votre film.
Ah, il y en a plein, il n'y en a pas qu'un. Hein.
C'est le grand critique du cinéma, de cinéma de journal Le Monde, Jacques Mandelbaum. J'ai rarement lu un papier aussi féroce. Scénario inepte, mise en scène désinvolte, acteur peu convaincu et guère convaincant, ce film est simplement désolant. Et ensuite, il dénonce la faiblesse de la mise en scène, l'ineptie du scénario, la désinvolte lourdeur des emprunts et la fadeur des dialogues. Je m'arrête là, que lui répondez-vous ?
C'est son droit, les gens ont le droit d'aimer ou de pas aimer.
Ouais.
Dans l'art, c'est pas du sport, il y a pas de vérité, il y a pas de, en sort longueur, c'est le meilleur, celui qui saute le plus loin.
Ouais.
Fin. En art, il y a pas ça, les sensibilités sont pas les mêmes, donc il y a même pas de débat à avoir.
Ouais.
Quelqu'un qui aime, il va dire pourquoi, si moi je vais pas aimer, il va pas me convaincre.
Je vais vous dire ce qui m'amuse dans ce que vous me dites. Je vois pas votre visage qu'on est masqué, mais vous avez l'œil qui rit, ça vous fait presque marrer ce genre de critique.
Bah oui, mais j'ai l'habitude, vous savez, je suis humoriste depuis une dizaine d'années, chaque soir je me fais juger toutes les 7 secondes.
Ouais.
Le public rit ou pas, donc j'ai l'habitude d'avoir des retours et des critiques. Et moi, je reconnais ce droit à tout le monde.
Et justement, c'est plein vos salles.
Ouais, je suis à Paris jusqu'au 31 décembre et après en tournée. Mais là, on est complet jusqu'à fin octobre.
On n'éteindra pas la lumière. C'est un nouveau spectacle ou c'est juste en rodage ou c'est toujours le même ? C'est quoi ce spectacle ?
En fait, moi, j'ai pas de nouveau dans ce spectacle. C'est-à-dire que tout ce que j'écris va directement dans mon stock de blagues qui est dans ma tête. Et chaque soir, je puise dans ce stock pour faire un spectacle en impro avec le public. Donc, il y a 3-4 ans, quand je le faisais, j'avais 2 heures. Après, j'ai eu 3 heures. Aujourd'hui, je suis à 4-5 heures, donc je puise. Et voilà. Mais le titre change, mais c'est le même concept, mais jamais du coup les mêmes ingrédients. Voilà.
Donc, il y aura des places de libre seulement à partir de novembre, décembre. C'est quand même dingue d'avoir ça et bravo à vous.
Merci beaucoup.
Un mot sur le confinement.
Oui.
Vous l'avez vécu et subi comme tout le monde. J'ai lu que vous aviez dit que vous trouviez qu'on avait pris trop de précautions sanitaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Non, j'ai pas. En bon, j'ai dit ça, moi.
Ouais. Et vous avez parlé de vos parents. Qui sont une cible du virus, ils ont quel âge vos parents ?
Mes parents, mon père, je suis nul sur les dates, mais moi je sais pas quel âge j'ai. Mon père, je sais que ma mère est née en 1960.
D'accord.
Et le 1er janvier, que mon père a 13 ans de plus qu'elle.
Donc votre maman, voilà. Elle a 60 ans et donc votre papa 75. Et votre papa dit, on ne peut pas bloquer la planète entière pour quelques vieux qui vont mourir.
Ouais, même eux, ça les saoule en fait. Mais après, moi, c'est simple. Pour avoir un avis pertinent dans une situation, je pense qu'il faut se mettre à la place des deux parties. Et effectivement, comme tout le monde, c'est sûr que j'aimerais bien pouvoir aller jouer au foot, enlever le masque, être heureux et, être moins dans cette logique-là. Mais après, moi, j'ai pas les chiffres, j'ai pas le nombre, je suis pas au courant sanitairement ce qui se passe vraiment. Et qui je suis pour dire ouais, il faut pas faire ça. Je pense que les personnes qui ont les informations doivent décider. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je suis très discipliné. Je fais ce qu'il faut faire. Quelle que soit ma façon de penser, ouais. En vrai, c'est pas important.
Mais c'est étonnant que ça vienne de votre papa et ça rappelle la tribune de Nicolas Bedos qui faisait lui-même référence à son papa. Juste un mot, vous en avez profité pour écrire un 4e long métrage
pendant le confinement.
Ouais. En combien de temps ?
Celui-là, je l'ai fait en 3 semaines.
Waouh. Et vous dites quoi à Jacques Audiard ou Gilles Lelouch qui disent qu'il faut des mois et des mois pour écrire un scénario?
Bah après, je pense que c'est comme ça dépend de chacun. Et puis, il n'y a pas de règle. Il y en a qui écrivent des chansons très vite, des bonnes chansons, des mauvaises chansons. Et d'autres qui écrivent des chansons plus lentement, des bonnes et des mauvaises.
Vous avez raison. Vous savez quoi? Il est temps maintenant de sortir de l'arène. Petite référence, parce que c'est un péplum, Brutus contre César. Un péplum sans chevaux.
Exactement.
C'est assez rare pour
on
être signalé.
On n'avait pas de budget, je tiens à le dire.
Merci, Kéron, d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec Léa Salamé et Yannick Letranchant pour une grande soirée caritative unie pour le Liban. Ce sera sur France 2. Et puis, une collègue à vous, Virginie Hoc, comédienne, humoriste belge, pour son nouveau spectacle, Virginie Hoc ou presque. Nous, on sera là demain, pas presque. Et juste après le flash, Anne Romanoff avec Ça fait du bien. Je vous dis à demain. Merci encore, Kéron.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Culture Média, Philippe Vandel.